BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumaud.
Une fois par mois, c'est toute l'expertise des échos qui fusionne avec Tout pour investir pour vous servir. Et aujourd'hui, on s'adresse aux étudiants, aux étudiantes. Investir, se loger, emprunter, c'est possible. C'est ce que vous allez nous dire, Marie-Christine Sonquin, quand on est jeune et étudiant. Bonjour Marie-Christine.
Bonjour Lorraine.
Rédactrice en chef patrimoine des échos. C'est vrai que les jeunes de moins de... On va donner un cran hein, en dessous duquel on travaille. En dessous de 25 ans ?
En dessous, oui, on peut dire ça. Oui, autour de 20 ans.
En dessous de 20 ans, autour de 20 ans, n'ont pas le réflexe de se dire « je suis déjà potentiellement un investisseur ». Pourquoi ? Quels sont les biais psychologiques ? Quels sont les freins que ces jeunes gens se mettent ?
Il y a surtout un frein pratique, en fait. Quand on a 20 ans, en général, on n'a pas énormément d'argent. Mais c'est vrai que c'est bien déjà de commencer à y penser et de commencer à prendre les bons réflexes, de se dire il faut quand même que j'épargne. Les jeunes commencent à y penser quand même. Il y a une évolution de la mentalité des jeunes. Ils commencent à se faire déjà à 20 ans du souci pour leur retraite. Alors je ne dis pas que c'est bien, mais ça peut leur donner l'idée d'avoir les bons réflexes. Et le bon réflexe, c'est lequel ? C'est d'épargner très régulièrement.
On commence à épargner parce que pour pouvoir investir, il faut déjà avoir un budget positif. C'est bien de le rappeler. L'épargne, alors évidemment, on ne va pas parler de montants colossaux. Vous nous dites qu'on peut commencer à épargner
centime par centime, il ne faut pas exagérer, mais euro par euro. Et si vous trouvez que c'est difficile, il y a des tas d'applis qui se sont lancées, qui sont assez rigolotes. Je peux en citer plusieurs. Hein. Vous avez une appli qui s'appelle Plum, par exemple. Alors, Plum, on vous lance des défis.
Attendez, j'appelle pour ceux qui nous écoutent.
PLUM, voilà, c'est ça. Et alors, chaque semaine, vous allez épargner un peu plus. Donc, la première semaine, vous allez épargner 1 euro. La deuxième semaine, 2 euros. 1 euro, 2 euros, c'est pas grand-chose. Hein. C'est à peine le prix d'un café. Mais chaque semaine, vous allez donc épargner un peu plus jusqu'à la 52e semaine. Et puis, finalement, au bout de l'année, vous allez vous apercevoir que vous aurez en tout épargné plus de 1370 euros environ. Donc, c'est quand même un petit peu significatif. Donc, déjà, c'est sympa. D'autres applis, il y en a plein. On peut citer Joko, Naomi,
Banking.
Banking historique, bien sûr, hein, voilà, ouais. Banking historique, qui vous permettent d'utiliser le système du cashback. Alors le système du cashback, ça consiste à assortir une cagnotte à votre carte bancaire. Donc à chaque fois que vous allez faire vos courses, faire une petite dépense, il y a une toute petite partie de ce que vous allez dépenser qui va être affectée à une cagnotte. Et cette cagnotte, vous pourrez la consacrer à un produit d'épargne. Il y en a même qui proposent d'affecter cette épargne justement à de l'épargne retraite. C'est le cas par exemple de Salva. Donc dès votre plus jeune âge, vous pouvez commencer à épargner en fait sans y penser. C'est pas pesant, vous n'y pensez pas, et puis ça demande pas un effort inconsidéré de dire chaque année chaque mois après avoir dépensé mon logement, ma nourriture, etc., faut que j'épargne en plus. Non, vous le faites au fil de l'eau finalement sans y penser. C'est de l'épargne sans douleur en fait.
On l'entend dans le vocabulaire que vous utilisez, Marie-Christine, on est dans presque l'insouciance. C'est gamifié, c'est ludique, ça n'est pas pesant, mais au final, effort après effort, on peut se retrouver avec des cagnottes qui peuvent permettre derrière de réaliser ses projets, d'éponger des fins de mois, de mettre un petit peu de liquidité dans des périodes difficiles, d'aider ses parents aussi, pourquoi pas. Voilà, en tout cas, c'est de l'hygiène financière. On commence à apprendre à épargner dès que possible. C'est ce que
Absolument.
Vous nous dites. Aidé par la technologie. Bon, il y a quand même quelques pièges à éviter et sans faire ma boomer. On sait l'attrait qu'ont les cryptos. On sait que les cryptos ont attiré beaucoup de jeunes vers l'investissement, ce qui est une bonne chose. Mais certains s'en sont mordus les doigts.
Certes, parce que le problème quand on est jeune, c'est qu'on est quand même très influençable. Hein. Et il y a beaucoup de pubs, notamment sur les réseaux sociaux, avec des influenceurs. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une sociologue, justement, qui s'est penchée sur le sujet. Elle s'appelle Laurence Allard. Et elle a vu que le profil de ces influenceurs, ça correspondait à peu près à la sociologie des vedettes de la télé-réalité.
Alors, d'accord.
J'ai rien contre eux, hein, mais c'est pas
forcément... des investisseurs.
Ce ne sont pas forcément les personnes auxquelles je vais faire confiance pour avoir des conseils d'investissement pour mon argent. Alors, cet épisode étant cité, je ne veux pas dire qu'il ne faut pas investir sur les cryptos. Enfin, il faut quand même être conscient que c'est une matière première qui est extrêmement volatile. Vous n'avez aucune certitude de retrouver votre capital. Alors, évidemment, là, ça a franchi récemment des sommets. Ça fait vraiment rêver. Ça attire énormément de jeunes. D'ailleurs, sociologiquement, on voit dans l'étude que fait chaque année KPMG pour les spécialistes, pour la DAN, qui est l'association donc des spécialistes des cryptoactifs, que ce sont essentiellement les jeunes qui sont attirés par ces cryptos. Vous en avez un sur quatre qui a entre 18 et 24 ans. C'est quand même énorme. Donc il y a un biais qui fait que ce sont vraiment essentiellement les jeunes qui vont sur ces cryptos. Il y a sans arrêt aussi des alertes de l'AMF, parce que bon, certes, investir dans les cryptos, c'est dangereux, c'est risqué, mais vous le savez. Mais le problème, c'est qu'il y a des tas de plateformes qui, en fait, vont vous dire on va investir votre argent dans les cryptos, mais elles investissent rien du tout. C'est des pyramides de Ponzi, en fait. Hein. Elles captent votre argent. Elles sont, en général, situées à l'étranger. Et alors là, vous êtes sûr que vous n'avez aucune chance de récupérer votre argent. Donc, il faut quand même être très attentif, faire très attention. Ça, ce sont vraiment des pièges pour des jeunes, voire très jeunes investisseurs.
Le conseil pour les jeunes et les moins jeunes, de toute manière, c'est que si vous avez investi si vous avez envie d'investir dans les cryptos, c'est un choix individuel. Néanmoins, ça doit correspondre au haut de la pyramide patrimoniale. C'est-à-dire qu'on y investit l'argent qu'on est prêt à perdre parce que c'est tout simplement c'est risqué.
Absolument. L'argent dont vous n'avez pas besoin. Et surtout, n'allez pas vider votre livret A pour aller investir dans les cryptos. C'est vraiment une très mauvaise idée.
Voilà. Et écoutez Amaury de Tonquédec dans BFM Crypto, le club, tous les jours pour continuer à construire votre culture crypto. Bon, il y a quand même cette question du risque. Quand on est jeune, Christian Fontaine, notre confrère du Revenu, nous le répète tous les mardis, on peut prendre du risque. Plus on vieillit, moins on peut en prendre. Mais est-ce que, du coup, à vous écouter, les placements risqués sont finalement à éviter?
Alors, non. C'est vrai que les placements risqués, c'est bien quand on est jeune parce qu'on a vraiment du temps, on a le long terme devant soi. Mais ce n'est pas le premier placement à faire. Le premier placement à faire, c'est quand même la base, le socle, ce sont les livrets, notamment les livrets défiscalisés. Alors, vous avez le bon vieux livret A. Hein, oui. Les parents en ouvrent très régulièrement pour leurs enfants et ils ont bien raison. Ça rapporte du 3% net d'impôts, net de prélèvements sociaux. Vous avez aussi le livret jeune, enfin, c'est jusqu'à 1600 euros. Donc, même si ça rapporte à partir de 3% et plus et que c'est défiscalisé, c'est pas là que vous allez gagner des fortunes. Le petit conseil qu'on peut donner aux jeunes, c'est s'ils viennent d'être détachés du foyer fiscal de leurs parents, c'est de vérifier s'ils ne peuvent pas ouvrir un livret d'épargne populaire. Parce que là, c'est vraiment extrêmement intéressant. Alors, il faut que leur revenu fiscal de référence qui est mentionné donc sur la feuille d'impôt ne dépasse pas un peu plus de 22 300 euros. C'est autour de ces montants-là. Mais ça arrive bien souvent lorsque vous venez de vous installer et que vous êtes tout juste détaché du foyer fiscal de vos parents. Et là, vous pouvez investir jusqu'à 10 000 euros et ça vous rapporte du 5% net d'impôts, net de prélèvements sociaux. Alors, le conseil, c'est ruez-vous sur ce livret défiscalisé.
Le LEP.
Le LEP, le livret d'épargne populaire, là c'est vraiment bien.
On oublie souvent que ce LEP, il peut être ouvert par des jeunes gens, tout simplement. Il y a
absolument
une fenêtre, voilà, quand on sort du foyer fiscal.
Voilà, il faut être détaché du foyer fiscal.
Il y a autre chose qu'on peut faire quand on est toujours dans le foyer fiscal de ses parents, c'est le PEA, dont nous allons parler juste après vous, le PEA jeune.
Absolument, ça c'est le plan d'épargne en action. Donc vous pouvez l'ouvrir lorsque vous êtes encore dans le foyer fiscal de vos parents et que vous avez 18 ans. Vous pouvez y verser jusqu'à 20 000 euros. Et alors ce qui est très intéressant, c'est que lorsque vous aurez 25 ans, vous n'aurez plus droit à ce PEA jeune. Donc ce PEA jeune va se transformer automatiquement en PEA classique. Mais là, vous n'allez pas perdre votre antériorité fiscale. Pourquoi est-ce que c'est intéressant? C'est parce qu'au bout de 5 ans, les gains que vous aurez cumulés sur votre PEA seront défiscalisés, donc hors impôt. Petit bémol quand même, c'est exonéré d'impôts, mais pas de prélèvements sociaux. Donc, si vous faites des retraits, vous aurez quand même des prélèvements sociaux de 17,2% à régler sur les gains.
Pour l'instant,
mais vous n'aurez pas d'impôts. Donc, prenez date, ouvrez d'ores et déjà un PEA jeune. Ça vous permettra aussi de commencer à vous intéresser à la bourse. Vous pourrez soit y mettre des titres vifs, donc sélectionner vous-même vos actions, ou alors recourir à la gestion collective, hein, choisir des fonds ou des ETF, des fonds indiciels cotés. Enfin, commencez un petit peu votre culture boursière en ouvrant ce fameux PEA jeune. Et puis, bien sûr, il y a un produit qu'il ne faut pas oublier. C'est l'assurance vie. Même si vous n'avez que très peu d'épargne, je vous conseille, en tout cas, quand vous êtes jeune, d'ouvrir un contrat d'assurance vie pour prendre date, pour déjà fixer les choses et très probablement bénéficier d'une fiscalité qui peut être amenée à évoluer dans les années qui viennent. On a bien vu que d'année en année, la fiscalité de l'assurance vie se durcit. Donc, un conseil, ouvrez le plus tôt possible un contrat d'assurance vie.
Voilà, prendre date pour ouvrir son contrat d'assurance vie, parce qu'il y a 7 ans pendant lesquels on est bloqué. Comme pour le PEA, 5 ans, on ne peut rien retirer, c'est important. Et puis aussi, ça vous familiarise avec les produits, tout simplement.
Alors, l'assurance vie, on n'est pas bloqué. Hein. L'assurance vie, on peut retirer son
On est taxé.
Voilà.
On est,
mais pour optimiser sur le plan fiscal, c'est vrai qu'il vaut mieux attendre 8 ans. Mais encore une fois, l'assurance vie, ce n'est pas un produit où votre argent est bloqué.
Donc, et puis, ce n'est pas un produit... Voilà, il reste assez liquide. Ouais. Un mot quand même d'immobilier, Marie-Christine, parce qu'évidemment, tous ces conseils sont à retrouver dans le dossier des Échos, que vous pourrez consulter en ligne demain ou dans votre kiosque. Il faut parler d'immobilier. Alors peut-être qu'on s'adresse plutôt aux jeunes professionnels plutôt qu'aux étudiants encore, ceux qui commencent à avoir un premier revenu récurrent. L'immobilier,
c'est possible. On s'adresse aux jeunes, mais aussi aux parents des étudiants.
Oui, c'est vrai.
Parce qu'ils se posent beaucoup de questions en ce moment. Aujourd'hui, c'est la date limite ce soir pour remplir son dossier sur Parcoursup. Ils ont accordé un jour de plus. Et quand les étudiants, les futurs étudiants et les parents auront les résultats, ils vont savoir dans quelle ville ils vont atterrir. Et là, va se poser un énorme problème. Comment se loger?
Oui. Alors, quelques conseils, Marie-Christine, qu'on peut donner en 2 minutes.
Alors, les parents, ils vont regarder, en fait, si c'est plus intéressant d'acheter ou de louer. Et tout va dépendre, en fait, de la ville dans laquelle vous allez atterrir. Alors, bon, déjà... De toute façon, bien évidemment, faire un investissement immobilier, c'est quelque chose qui engage sur le long terme. Il va falloir rembourser un crédit. Mais on se dit, finalement, j'ai mon enfant qui va habiter là, grosso modo, en général, pendant 5 ans.
Oui.
Pendant 5 ans, est-ce que j'ai envie d'aller payer un loyer à fonds perdu? Ou est-ce que ça ne serait pas plus malin, finalement, d'investir? Comme ça, je loge mon enfant, entre guillemets, pas gratuitement, mais en tout cas sans payer un loyer à fonds perdu. Puis une fois qu'il aura quitté le logement, je pourrait le louer à un autre étudiant qui sera bien content de trouver un logement, parce que pour trouver des locations en ce moment, c'est quand même extrêmement difficile.
Alors, il y a certaines villes où c'est plus intéressant d'acheter que de louer. Alors, parents et étudiants qui êtes encore dans Parcoursup pour quelques heures, notez bien, notamment il y a Reims.
Oui,
mais pas que.
Il y a une société qui s'appelle Vest qui nous a fait une étude pour voir dans quelle ville il était plus intéressant d'acheter que de louer, parce que le piège, effectivement, c'est de regarder sur le papier quelles villes sont les plus rentables, c'est-à-dire les villes qui sont les moins chères par rapport à des loyers qui restent quand même relativement élevés. Mais il faut pas juste regarder ça, il faut aussi regarder quelle sera la demande locative, parce que là aussi il y a un piège. Une fois que vous aurez passé les 5 ans de votre enfant étudiant, personne n'arrive derrière avec une demande, vous allez vous retrouver avec un bien sur les bras. Et pour que ça soit vraiment rentable, il faut viser à peu près 10 ans de détention.
Oui. Faut pas ne serait-ce que pour les frais de notaire.
Faut pas revendre tout de suite. Donc vous avez plusieurs villes qu'ils ont repérées qui peuvent être intéressantes, plus intéressantes à l'achat qu'à la location. Vous en avez cité une, il y a également Le Mans, vous avez Saint-Étienne, vous avez encore Limoges. Enfin, il y a toute une petite shortlist de villes dans lesquelles on peut éventuellement envisager d'investir. La liste complète dans notre dossier qui sera demain en kiosque.
Voilà, étude réalisée par Vuest Partner, WUEST pour être précise. Merci beaucoup Marie-Christine pour ce preview, pour ce goût de ce dossier à retrouver dans les Échos demain, vous l'avez entendu, pour les étudiants, les étudiantes, mais aussi leurs parents ou leurs pourvoyeurs. Voilà, des conseils pour commencer dès le plus jeune âge, en l'occurrence autour de 20 ans, à investir, à épargner et puis aussi à emprunter. Vous trouverez d'ailleurs dans ce dossier un petit peu plus de détails sur le plan épargne avenir climat. On en a un petit peu déjà parlé dans cette émission. On vous lira avec intérêt, Marie-Christine, vous et toute votre équipe. Marie-Christine Sonquin, rédactrice en chef patrimoine des Échos. Et cette séquence est à retrouver pour vos oreilles en podcast et en replay d'ici quelques minutes sur le site et l'application BFM Business.